Vous écoutez, on lit pour vous.
Carte de crédit. La hausse du paiement minimum peut faire mal. Un texte d'Emmanuel Grill, paru le 17 septembre 2024 dans Protégez-vous. Depuis 2019, le pourcentage du paiement minimum à effectuer sur le solde d'une carte de crédit a augmenté progressivement. Il atteindra 5 % en août 2025. Une recherche semble indiquer que l'impact peut être important pour les consommateurs qui ne règlent pas rapidement le solde de leur compte. À partir d'août 2025, tous les détenteurs de cartes de crédit au Québec devront rembourser chaque mois au minimum 5 % du solde de leur compte. Certains le font déjà si leur carte a été émise après le 1er août 2019. D'autres y arrivent avec des cartes émises il y a plusieurs années et dont le solde minimal de remboursement a progressivement grimpé, 0,5% à la fois. Le but visé par la réglementation du Québec? Prévenir les problèmes d'endettement et conscientiser les détenteurs de cartes de crédit sur ce qu'il en coûte en frais d'intérêt d'étirer le remboursement du solde. Par exemple, le calculateur de l'Office de la protection du consommateur, OPC, indique que le montant des intérêts et le temps nécessaire pour rembourser un achat de 1 000 sont les suivants. Carte à 19,99% pour quelqu'un qui ne rembourse que le strict minimum. Cartes offertes avant août 2019 avec un pourcentage de paiement minimum de 2%, près de 26 ans de remboursement avec 3 001 $ de frais d'intérêt. Cartes offertes depuis août 2024 avec un pourcentage de paiement minimum de 4,5%, près de 7 ans de remboursement avec 511 $ en frais d'intérêt. Cartes offertes à partir d'août 2025 avec un pourcentage de paiement minimum de 5%, 6 ans de remboursement avec 442 $ de frais d'intérêt. On le voit, en augmentant le paiement minimum, la durée de remboursement et le montant des intérêts diminuent radicalement. Une bonne façon de protéger les consommateurs contre eux-mêmes. Mais, bien que l'intention de départ soit bonne, on peut néanmoins se demander si l'objectif sera atteint ou si, au contraire, cela contribuera à endetter encore davantage une catégorie d'utilisateurs de cartes de crédit. L'expérience menée par une banque. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions sur la mesure instaurée au Québec, mais Philippe Dastou, professeur agrégé au département de finances de HEC Montréal, s'est déjà penché sur la question. En fait, une grande institution financière nord-américaine, il ne peut la nommer, a imposé il y a quelques années une règle de remboursement semblable à ses clients, nous explique celui qui est aussi directeur du laboratoire en éducation financière à HEC Montréal. Cette banque avait alors fait passer de 3 à 5% le taux de paiement minimum sur les soldes de ses cartes. Les résultats de la recherche de l'expert indiquent qu'effectivement, certains consommateurs ont été incapables d'augmenter leurs versements. En quelques mois, leur compte a été fermé par le créancier puis envoyé au recouvrement. Après avoir manqué un versement, ces consommateurs ont pris un retard qu'il leur a été impossible de combler, constate Philippe Dastou. À terme, cette mesure a donc engendré davantage de défauts de paiement. Tout le monde n'est pas nécessairement capable d'absorber une hausse de 2 %. Une marche trop haute pour de nombreux emprunteurs? Quand on sait que le solde moyen des cartes de crédit est de 2 500 $ au Québec, le versement minimum devrait passer dès août 2025 de 75 à 125 $ le premier mois pour se réduire progressivement au fil du temps. La marche sera haute pour ceux dont la situation financière précaire fait en sorte que leur accès au crédit se limite à leur carte de crédit. Ils ne peuvent bénéficier des taux d'intérêt plus avantageux qui s'appliquent aux prêts ou aux marges. Cependant, contrairement à ce qui s'est passé dans le cadre de la recherche du professeur Dastou, La hausse au Québec a été instaurée progressivement, 0,5% à la fois. D'ici 2025, il espère donc que les utilisateurs auront eu suffisamment de temps pour s'adapter ou pour baisser leurs soldes. La recherche que le spécialiste a menée révèle aussi qu'à l'autre bout du spectre, on trouve ceux qui remboursent déjà leurs soldes complets chaque mois. Ceux-là ne sont évidemment pas affectés par cette hausse. Il s'agit des utilisateurs transactionnels qui se servent de leur carte comme d'un outil de paiement et non comme un outil de crédit, ce qui constitue bien sûr la meilleure option. Des habitudes de paiement difficiles à modifier. Entre ceux qui paient rubis sur ongle et ceux qui n'y arrivent pas, se trouvent tous ces consommateurs mal informés sur les conséquences reliées au prolongement du remboursement de leurs soldes, ou encore ceux dont les comportements ne sont pas totalement rationnels. D'autres recherches ont démontré que les gens ont tendance à verser systématiquement un certain pourcentage du montant chaque mois, et ce, sans nécessairement réfléchir à ce qui serait optimal d'un point de vue financier, mentionne Philippe Dastou. Il ajoute que les individus développent généralement des habitudes de paiement sur leur carte qui sont difficiles à modifier, même si elles ne sont pas optimales. Par exemple, en ne remboursant pas en premier la carte qui affiche le plus haut taux d'intérêt, mais en répartissant les montants sur différentes cartes. Avec sa réglementation, le gouvernement du Québec espère sans doute que les consommateurs seront touchés par la grâce et prendront conscience des avantages d'effectuer des paiements minimums plus élevés. Ce serait une bonne chose, car rares sont ceux qui saisissent réellement comment sont calculés les intérêts sur leur carte de crédit. Cette mécanique encore mal comprise fait en sorte que chaque mois, les consommateurs laissent des dizaines, voire des centaines de dollars sur la table. Décidément, force est de constater que l'éducation financière peut faire beaucoup pour notre porte-monnaie. C'était « Carte de crédit, la hausse du paiement minimum peut faire mal », un texte d'Emmanuel Grill, paru le 17 septembre 2024 dans « Protégez-vous ».
Le vélo électrique, un allié de l'entraînement ou pas? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. Qui sont nos experts? Pierre Lavoie, triathlonien, spécialiste de l'Ironman et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. À ses yeux, le VAE est l'une des plus belles évolutions de la dernière décennie. Christian Duval, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM et chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il voit le VAE comme un bel outil, mais il défend les bienfaits du vélo ordinaire pour les gens sans limitation. En 2020, les VAE, qui fournissent une assistance uniquement lorsque le cycliste pédale, représentaient déjà le quart des vélos pour adultes vendus au Québec. Les bixies électriques ont aussi beaucoup de succès. Sur le plan de la santé publique, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pierre Lavoie. C'est une très bonne nouvelle parce que le VAE démocratise le vélo. On voit des gens qui, avant, restaient chez eux, renouer avec cette activité qu'ils connaissent et dans laquelle ils se sentent compétents. Ils font les mêmes parcours qu'ils faisaient plus jeunes, refont du vélo avec leurs femmes. C'est pour ça que c'est si populaire. Chez Cycle Néron, 60% des ventes, c'est du VAE. Dans les parcours que je fais dans ma région, c'est du 8 sur 10. Christian Duval. Le VAE permet à une branche de la population, celle qui ne voyait plus le vélo comme une activité viable pour elle, de se sentir compétente et d'être capable de sortir. Les efforts fournis en VAE sont supérieurs à ceux de la marche et de certaines marches rapides. Et il y a des avantages. On va en général plus loin en VAE qu'en vélo ordinaire. Là-dessus, aucun doute que le VAE puisse avoir un impact sociétal important. Pierre Lavoie. Hier, par exemple, mon ami de 68 ans m'a accompagné sur son VAE. On a fait 84 kilomètres ensemble dans les montagnes. Les VAE donnent l'espoir de faire du vélo longtemps et les modèles vont continuer à s'améliorer. Quand on fait du VAE, on dépense en moyenne 30 % de calories en moins qu'en vélo ordinaire, selon les études. Est-ce que ça compte quand même pour de l'exercice? Christian Duval. Oui, les revues de la littérature montrent qu'effectivement, on dépense un peu moins d'énergie en VAE qu'en vélo ordinaire. Mais il suffit de faire du VAE plus longtemps pour obtenir la même dépense calorique. Le bémol que j'apporte est plutôt le suivant. Les études montrent clairement que des efforts de courte durée et soutenus, à plus haute intensité, apportent des bienfaits métaboliques supérieurs aux efforts de longue durée à intensité égale. Et quand il y a une petite côte à monter en vélo ou un petit vent de face, c'est extrêmement bénéfique. Ça a un effet sur ta musculation, sur tes structures osseuses. Bref, tu peux faire de plus courtes distances avec un vélo non électrique et obtenir des résultats supérieurs sur ton métabolisme. Pierre Lavoie. Christian, as-tu un VAE? Christian Duval. Non, je n'en ai pas. Pierre Lavoie. Moi, j'en ai trois. Montagne, route et gravelle. Et j'ai aussi trois vélos normaux. Ça a commencé un jour de fin d'octobre lorsque j'ai emprunté le VAE de ma femme parce que c'était le seul qui restait dans le garage. Ça a été une révélation pour moi. Du plaisir de A à Z. Le lendemain, je suis parti en faire 3 heures. Quand tu l'utilises bien, le VAE t'amène un des bienfaits les plus importants de la motivation intrinsèque. Le plaisir. Quand la météo est exécrable, je prends mon VAE, je pars avec le sourire et je reviens avec le sourire. Le plus gros frein, c'est nous, les athlètes. Mes amis ont encore tous des préjugés. Pourtant, mes sorties les plus difficiles, c'est celles que je fais en VAE. Je prédis même que, dans 5 ans, la majorité des athlètes du Tour de France vont s'en servir en entraînement pour augmenter leur capacité. Lorsqu'on utilise le VAE pour se déplacer, faut-il aussi considérer le moyen de transport qu'il substitue? Christian Duval. Entre le VAE et la voiture, il faut évidemment prendre le VAE. Mais si vous hésitez entre un VAE et un vélo ordinaire pour revenir du travail parce qu'il y a une côte à monter, comme kinésiologue, je vais vous dire ceci. Le vélo sans assistance sera plus payant sur le plan physiologique. Pierre Lavoie. On sait que les gens prennent le vélo lorsque leur travail se situe à 7-8 km de la maison, mais le VAE augmente beaucoup ce rayon. Imaginez l'impact environnemental et humain. C'est encore plus vrai dans les régions où les distances sont très longues. Je le vois, le phénomène. Les gens embarquent sur leur vélo, la cohabitation s'installe, ça justifie les bordures de routes asphaltées. Et ces gens ont le même sourire que moi. Qu'est-ce qu'il y a de si plaisant? Pierre Lavoie. Ce qu'on aime à vélo, c'est avoir le vent dans le dos. Ça va vite, on se sent puissant. Avec le VAE, c'est comme si tu as toujours un vent de dos en montant des côtes. Christian Duval. Pierre et moi, on a un point en commun. On fait tous les deux des triathlons. Lui, élite, moi, amateur. Je m'entraîne actuellement pour l'Ironman California. Et il y a des jours où je dois faire 180 km de vélo, même s'il ne fait pas beau. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, je vais m'acheter un VAE pour ces sorties-là. Je sais que mon avenir va comprendre un VAE. Mais je pense qu'il faut éviter l'erreur de dire aux gens qui hésitent entre un vélo ordinaire et un VAE d'acheter un VAE. C'est du cas par cas. Si vous n'êtes plus capable, physiologiquement, de faire les parcours que vous aimiez ou de suivre vos amis, alors oui, achetez-vous-en un. Mais si vous voulez faire de petites distances de vélo pour vous mettre en forme, vous n'en avez probablement pas besoin. Pierre Lavoie. Je proposerais l'inverse. Si vous voulez commencer à faire du vélo, allez-y avec un VAE. Vous allez avoir beaucoup de plaisir et vous allez accrocher. Et quand vous serez en forme, vous changerez peut-être pour un vélo ordinaire. C'était le vélo électrique, un allié de l'entraînement ou pas? Un texte de Catherine Handfield, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.
Des précipitations extrêmes en septembre dans le monde, alimentées par une chaleur quasi-record. Un texte de Benjamin Legendre de l'agence France Presse paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Super typhon en Asie, tempête Boris en Europe et ouragan en Amérique du Nord. Les précipitations extrêmes, exacerbées par les températures très anormalement élevées de la planète depuis plus d'un an, ont marqué le mois de septembre 2024 dans le monde. Septembre 2024 a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, poursuivant une série de records ou quasi-records qui rendent quasiment certain que 2024 sera l'année la plus chaude jamais mesurée, a annoncé mardi le 8 octobre 2024 l'Observatoire européen Copernicus. 2024 battrait ainsi le record établi en 2023. Les précipitations extrêmes de septembre que nous observons de plus en plus souvent ont été aggravées par une atmosphère plus chaude, avec par endroits des mois de pluie en quelques jours, déclare Samantha Burgess, directrice adjointe du service changement climatique C3S de Copernicus. Le bulletin mensuel de l'Observatoire met en avant les exemples de la tempête Boris, synonyme d'inondations exceptionnelles en Europe centrale, de la mousson qui a sévèrement frappé le Pakistan et du typhon Kraton qui a frappé Taïwan et les Philippines début octobre 2024. Septembre 2024 a aussi été marqué par les ravages des super typhons Yagi et Bibinka en Asie, des inondations meurtrières au Népal et au Japon, ou encore de l'ouragan Helene aux États-Unis. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, une saison des pluies intenses a fait plus de 1 500 victimes, 4 millions de sinistrés et 1,2 million de déplacés, selon l'Organisation internationale des migrations, OIM. Avec une température moyenne de 16,17 degrés centigrades à la surface du globe, septembre 2024 ne bat pas le record de septembre 2023 qui avait surpris la communauté scientifique par son ampleur. Mais si les habitants de France, de la côte est américaine ou d'Asie centrale seront peut-être surpris après avoir ressenti des températures plus fraîches que d'habitude, septembre au niveau mondial reste bien nettement plus chaud que dans le passé. C'était « Des précipitations extrêmes en septembre dans le monde, alimentées par une chaleur quasi-record », un texte de Benjamin Legendre de l'agence France Presse, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.
Ostéoporose. Ce qu'il faut savoir sur les suppléments de calcium et de vitamine D. Un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge. À partir d'un certain âge, plusieurs femmes se voient prescrire des suppléments de calcium et de vitamine D pour contrer l'ostéoporose. Le détecteur de rumeurs s'interroge sur le bien fondé de cette recommandation. Qu'est-ce que l'ostéoporose? Le calcium est impliqué dans plusieurs processus du corps humain, dont l'entretien du squelette, la régulation de la sécrétion des hormones, la transmission des influx nerveux et l'activité vasculaire, comme le rappelaient des chercheurs américains et chinois dans un article qui, en 2018, effectuait une revue de la littérature sur les suppléments de calcium. Si la quantité de calcium dans le sang diminue, celui des os est relâché pour le remplacer. C'est ce qui provoque une baisse de la densité osseuse. Les os deviennent ainsi fragiles, ce qui augmente le risque de fracture. On parle alors d'ostéoporose. L'utilisation de suppléments de calcium est donc une pratique répandue pour tenter de maintenir la densité osseuse. Et c'est parce que la vitamine D facilite l'absorption du calcium que de tels suppléments sont, eux aussi, souvent recommandés. Que disent les études? En 2018, des chercheurs de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont analysé 81 études contrôlées et randomisées menées auprès de 54 000 personnes pour évaluer l'effet des suppléments de la vitamine D sur la santé musculo-squelettique. Leur conclusion, ces suppléments n'influencent pas significativement la densité osseuse et ne préviennent pas les fractures. Les suppléments de vitamine D à eux seuls ne sont pas suffisants pour améliorer la densité osseuse chez les adultes en santé, confirmaient en 2022 des scientifiques américains qui s'intéressaient à la prévention et au traitement de l'ostéoporose. Quant au calcium, seul ou en combinaison avec la vitamine D, les résultats sont moins clairs. En 2015, l'analyse de 8 études menées auprès de 30 970 participants avait montré que ces suppléments diminuaient le risque de fracture chez les adultes d'âge moyen à avancé. Cependant, selon une autre méta-analyse publiée en 2017, les suppléments de calcium ne seraient pas associés à une réduction des fractures chez les personnes qui ne sont pas hospitalisées. Selon l'équipe américano-chinoise qui avait publié sa revue de la littérature scientifique en 2018, ces résultats contradictoires pourraient être dus à des doses de calcium qui varient d'une étude à l'autre. De plus, l'effet des suppléments pourrait être inégal d'une population à l'autre. Par exemple, les suppléments de calcium et de vitamine D n'auraient pas d'effet sur la densité osseuse des femmes en préménopause, concluait en 2023 le collectif à but non lucratif Cochrane, qui réalise des revues systématiques de la littérature scientifique en santé. Par ailleurs, peu d'études ont été réalisées chez les hommes, selon les chercheurs américains et chinois. Enfin, le calcium dans les aliments semble mieux absorbé que celui provenant des suppléments. En 2023, Ostéoporose Canada estimait d'ailleurs, dans une mise à jour de ses lignes directrices, que chez les personnes qui ont un régime alimentaire équilibré et qui ne prennent pas de médicaments contre l'ostéoporose, les suppléments de calcium ou de vitamine D ont peu d'effet sur le risque de fracture. Y a-t-il des risques? En raison de ces bénéfices discutables, les chercheurs américains et chinois se demandaient en 2018 s'il est sécuritaire de prescrire des suppléments à tout le monde. En fait, selon l'équipe américaine de 2022, un excès de calcium n'a pas d'effet positif pour la santé et peut même causer des problèmes. Par exemple, les suppléments de calcium amplifient le risque de constipation, de diarrhée et de douleurs abdominales, de même que le risque de pierre aux reins, soulignaient les chercheurs américano-chinois. Consommer plus de 4000 unités internationales de vitamine D par jour est aussi associé à des effets secondaires, comme des pertes d'appétit, des nausées et de la fatigue. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à certaines allégations à ce sujet, ces suppléments n'augmentent pas le risque de maladies cardiovasculaires ou de cancer, pouvait-on lire en 2022 dans les directives cliniques britanniques pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Quelles sont les recommandations? Ce même document rappelle que les fractures de fragilité ne sont pas fréquentes chez les femmes en préménopause et chez les hommes plus jeunes. C'est pourquoi les lignes directrices d'Ostéoporose Canada, entre autres, s'adressent d'abord aux femmes ménopausées et aux hommes de 50 ans et plus. Ostéoporose Canada leur recommande d'avoir une alimentation avec un apport adéquat en calcium, c'est-à-dire entre 1000 et 1200 mg par jour. Les principales sources sont les produits laitiers faibles en gras, les légumes verts foncés, les poissons, les fruits, les légumes et les aliments fortifiés, jus d'orange, boissons au soya, boissons aux amandes. Ostéoporose Canada rappelle aussi que les suppléments de calcium ne sont pas recommandés chez les personnes avec une alimentation qui en contient déjà suffisamment. Un supplément pourrait être approprié si l'alimentation ne permet pas de fournir l'apport quotidien recommandé ou si une personne est à risque d'ostéoporose, peut-on lire dans les directives cliniques du Royaume-Uni. Du côté de la vitamine D, toutefois, Ostéoporose Canada recommande un supplément de 400 unités internationales aux personnes de plus de 50 ans, la raison étant que peu d'aliments en contiennent assez. En effet, les sources alimentaires de vitamine D comprennent seulement le lait enrichi, les céréales à déjeuner, les poissons d'eau salée, saumon, maquereau, thon, l'huile de foie de morue et certains produits enrichis, boissons au riz ou au soya. Verdict. Le calcium et la vitamine D sont importants pour la santé des os. Cependant, l'efficacité des suppléments n'est pas très bien démontrée. La meilleure recommandation pour prévenir l'ostéoporose est donc d'avoir une alimentation riche en aliments qui en contiennent. C'était Ostéoporose, ce qu'il faut savoir sur les suppléments de calcium et de vitamine D. Un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge.